Bonjour à tous, frères et sœurs, pour ceux qui viennent d'arriver et que je n'ai pas encore salué. Frères et sœurs, le thème de la semaine universelle de prière s'intitule donc « Une joie profonde ». La semaine commence aujourd'hui, et le 8 donc, et se termine le 15, et donc sur dimanche prochain, donc sur 8 jours. Ce thème sera décliné en 8 titres. La joie de la création, la joie en Jésus-Christ, la joie fruit de l'Esprit, créée pour la joie d'être ensemble, la joie du salut, la joie dans la souffrance et la joie éternel. Je vous laisse découvrir et suivre ces méditations chaque jour de la semaine. Je ne prendrai donc pas ces méditations comme base de ce message. Je vous laisse découvrir le thème et notre frère Philippe a recopié tous les thèmes parce que le livret de la semaine universelle est un peu lourd. Il fait 31 mégas, un peu lourd à télécharger ou à même afficher sur les anciens ordinateurs. Alors notre frère Philippe a mis tout ça sur Word pour qu'on puisse lire facilement les méditations. Donc il a envoyé et Jean l'a relayé à l'Assemblée. Donc, je vous laisse lire ces méditations. Mais moi-même, ce thème de la joie, j'y avais réfléchi il y a quelques années déjà. Et donc, c'est le fruit de cette réflexion que je vous redonne aujourd'hui. Nous allons lire d'abord 2 versets. Le premier en Philippiens 4. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et le deuxième verset, dans les psaumes, chapitre 32, verset 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Alors, bien sûr, une question se pose, est-ce bien réaliste? Étant donné l'état du monde, les conditions actuelles, les guerres, les changements climatiques, l'inflation, etc., 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 est-ce bien réaliste de se réjouir? Peut-on se réjouir dans ces conditions? Ces questions-là, les Juifs se les posaient déjà quand, pour la fête de Sukkot, ou fête des tabernacles, ou aussi appelée fête des tentes, Dieu disait à son peuple dans le Lévitique, au chapitre 23, verset 40, et 41, vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. Et le frère Josué Turnil nous l'avait expliqué le 10 octobre 2021. Quand il nous avait parlé des fêtes d'automne, que vous pouvez d'ailleurs réentendre sur le site de l'Église. Est-ce qu'il faut se réjouir toujours, à n'importe quelle occasion, dans n'importe quelle circonstance? Le texte du Lévitique nous précise que c'est à l'occasion qu'une fête à l'Éternel. Donc, dans un cadre précis. Il est évident que, en ce qui concerne notre attitude envers ceux qui nous entourent, nous ne pouvons pas être toujours dans la joie. C'est une question de bon sens. L'apôtre précise ailleurs, en Romains, chapitre 12, verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » L'amour que le Seigneur met dans nos cœurs nous pousse à compatir à la douleur de notre prochain, à le soutenir dans l'épreuve. L'injonction de nous réjouir s'adresse à nous-mêmes. C'est à nous, chacun individuellement, de retenir ce conseil pour l'appliquer à ce que nous vivons. La foi que nous avons en Dieu et que nous professons ne nous rend pas inconséquents. Il ne s'agit pas de se réjouir comme les païens ou avec les païens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui veulent profiter de la vie, jouir de la vie sans se préoccuper des autres ni de l'avenir. Il ne s'agit pas non plus de se réjouir à contre-temps quand ce n'est pas le moment. Ecclésiaste nous dit, chapitre 3, du verset 1 à 4, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, etc. » Il ne s'agit toujours pas de se réjouir quand on devrait plutôt s'humilier à l'exemple du peuple d'Israël que le prophète reprend. En Ésaïe 22, le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à cindre le sac. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné, que vous ne soyez morts, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Dans ces versets, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur et juste réjouissez-vous en l'Éternel. L'accent n'est pas mis sur toujours, mais sur le reste, sur la suite, dans le Seigneur ou en l'Éternel. Nous sommes appelés à nous réjouir dans le Seigneur, dans la foi au Seigneur, dans la reconnaissance de l'œuvre accomplie pour notre salut. Et dans ce sens, c'est réaliste. Parce que cela ne s'appuie pas sur nous et sur notre incapacité ou sur nos prétendues capacités, mais sur ce que le Seigneur a accompli à la croix. En Ésaïe 25, verset 9 dit « En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Notre joie se fonde sur l'œuvre de Christ et ce qu'il nous a acquis. Nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés de la perdition, rachetés, sanctifiés, nous sommes héritiers du ciel. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Il nous prépare une place dans son royaume. Par la puissance du Seigneur, les apôtres ont fait de grandes choses, des miracles. Mais ce n'était pas sur ces choses extraordinaires qu'ils devaient s'appuyer pour se réjouir. Jésus leur a dit, en Luc, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Si notre joie ne se fondait que sur les victoires, on risquerait malheureusement de nous lamenter souvent. Et c'est bien souvent ce que nous faisons. Quand tout va bien, que la victoire est là, nous nous réjouissons, mais quand ça va mal, nous pleurons. Mais Jésus nous dit de regarder dans les cieux, là où notre nom, nos noms sont écrits dans le livre de vie. Et si l'apôtre nous dit de nous réjouir toujours, c'est que notre foi doit être constante, durable et tournée vers le ciel. Ainsi, notre joie ne dépendra pas des circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Dans Romains, chapitre 12, verset 12, il est dit « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. » Et l'apôtre avait précisé au chapitre 8, verset 24, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ?» Tout est accompli par le Seigneur à la croix. Mais tout ne se voit pas encore sur la terre. Certaines choses doivent encore se réaliser, en particulier le retour du Seigneur et l'établissement de la nouvelle Jérusalem. Et le Seigneur dit en Ésaïe 65, « Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. » Dieu demande de se réjouir pour quelque chose qui est encore au futur quand le prophète parle. Mais ce que Dieu dit, il le fait. S'il dit qu'il va créer Jérusalem pour l'allégresse, il le fera. Dans Apocalypse 21, verset 2, il est dit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Et plus loin, dans Apocalypse, toujours 21, mais verset 9, « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et à la suite, on voit qu'il lui montre alors la nouvelle Jérusalem. L'épouse, la nouvelle Jérusalem, c'est l'Église que Christ bâtit. C'est nous, si nous nous sommes donnés à lui. Matthieu 16, 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'Église est créée pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Pas étonnant que l'apôtre nous dise, je le répète, réjouissez-vous. L'épouse est préparée pour les noces. En attendant cela, si l'apôtre nous dit d'être patient dans l'affliction, c'est que la patience doit faire son œuvre en nous et nous amener à la perfection. C'est pour être unis au Seigneur que nous devons être rendus parfaits. Dans cette optique, l'épreuve peut devenir un sujet de joie, selon ce que dit Jacques. Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Tous les apôtres nous disent la même chose. Si nous prenons part aux souffrances de Christ, nous nous réjouirons aussi quand il reviendra. 1 Pierre 4, 13. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Il nous rappelle simplement ce que Jésus leur avait enseigné en Matthieu 5, 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Nous sommes heureux d'être dans la famille des prophètes du Seigneur dans la famille du prophète et dans la famille du Seigneur lui-même, qui ont été rejetés et persécutés. C'est l'espoir de la récompense qui nous est réservée, qui doit nous réjouir. Même sans persécution ou épreuve particulière, il est aussi évident que se réjouir dans le Seigneur ne veut pas dire que nous serons toujours en forme, ayant la pêche, selon l'expression populaire. De même que le Seigneur et les apôtres ont pu être fatigués, nous le serons aussi. Cela fait partie de la nature humaine. Mais le fait de regarder vers le ciel, de nous réjouir dans le Seigneur, nous aidera à ne pas nous décourager. L'apôtre Paul le disait dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Pour conclure, je laisserai encore l'apôtre Paul nous dire en Philippiens, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Que le Seigneur poursuive son œuvre en nous. Amen.